France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Fanny Richet et Loïc Antoine, réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le premier volet de notre série consacrée à l'essor des droites latino-américaines. Après un cycle où le continent semblait avoir basculé à gauche, nous parlerons demain de l'Argentine, où Javier Milei assoit son pouvoir et impose son utopie libertarienne. Mercredi, de la Bolivie, où la droite tente de faire oublier la gauche d'Evo Morales avec la promesse d'un capitalisme pour tous. Jeudi, de la Colombie, où l'échec de la paix totale de Gustavo Petro ravive l'espoir de la droite de reprendre le pouvoir à l'issue des élections l'année prochaine. Aujourd'hui, le Chili, entre deux tours de la présidentielle et en pleine obsession sécuritaire. C'est le sujet de Culture Monde ce matin.
Nous allons fermer nos frontières de manière si étanche que plus personne ne pourra plus entrer par la fenêtre. Quiconque voudra venir au Chili sera forcé de passer par la porte, de s'identifier, de travailler et de respecter nos lois comme le font tous les Chiliens.
Nous allons les expulser un par un. J'ai tout mon temps pour ça. Je ne suis pas pressée, mais je veux envoyer un signal clair et fort aux étrangers. Comportez-vous bien. Nous avons besoin de vous, les bons migrants, mais pas des autres. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai toujours l'intention de poser des mines à notre frontière nord.
Nous expulserons quiconque entrera illégalement dans le pays. Nous allons geler les régularisations et nous allons mettre en prison tous ceux que nous ne pouvons pas expulser immédiatement jusqu'au moment où ils choisiront de quitter notre pays de gré ou de force. Ma patience a des limites.
C'est un pays où la hantise de l'immigration et le spectre du crime organisé effraient davantage aujourd'hui que les fantômes de la dictature. En quelques années seulement, le Chili a vu la part d'étrangers dans sa population doubler, des milliers de Haïtiens, de Boliviens et surtout de Vénézuéliens s'y sont installés, en même temps que s'implantait le gang Tren de Aragua et que le narcotrafic augmentait. Cette nouvelle donne et ce que les politiques chiliens se sont permis d'en faire et d'en dire surtout, ont littéralement composer le paysage politique, comme l'ont démontré les scrutins du 16 novembre, les élections législatives et le premier tour de la présidentielle. Les deux scrutins ont révélé la même chose, l'échec de la gauche à conserver le pouvoir, conquis en 2021 suite à un très grand et très vaste mouvement social, et un basculement général à droite. Tout parti confondu, elle rassemble 70% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle, avec une large avance pour les partis les plus à droite du spectre, partis ouvertement xénophobes et nostalgiques des années Pinochet, au prétexte qu'à l'époque on y vivait, disent-ils, plus en sécurité qu'aujourd'hui. Et voilà Jeannette Jara, candidate de la gauche, bien à la peine aujourd'hui pour assembler des soutiens face à son adversaire pour le second tour, José Antonio Kast, qui appelle les électeurs à choisir entre deux modèles de société. Comment expliquer que le monde partisan né de la transition démocratique ait été à ce point englouti? Bonjour Mathilde Alain.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignante chercheuse à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine et au Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques, le CREDA. Bonjour Franck Godichaud.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en histoire et études des Amériques latines à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Découvrir la révolution chilienne, c'est le titre de l'ouvrage que vous aviez fait paraître il y a 2 ans aux éditions sociales. Vous n'y parliez pas de la révolution chilienne de 2019, mais bien de celle de 1970-1973. Alors, nous sommes aujourd'hui à 2 semaines du second tour de la présidentielle. Dans quel rapport de force se retrouvent aujourd'hui Mathilde Alain, les deux candidats qui restent en lice, Jeannette Jara pour la gauche et José Antonio Kast pour la droite? Sur quelle voie pourra compter d'abord celui qu'on présente comme le favori, José Antonio Kast, au-delà de celles et ceux qu'il a déjà réunis au premier tour? Est-ce que toute la droite est derrière lui aujourd'hui?
Alors en effet, une très très grande partie de la droite et de l'extrême droite chilienne est derrière la candidature de José Antonio Kast. On a tout de même eu un premier tour qui a pris des allures de primaire de la droite, puisqu'on avait trois candidats classés à droite. Donc la droite dite traditionnelle de Evelyne Matthei, à l'extrême droite José Antonio Kast, donc du Parti Républicain, et à droite de l'extrême droite, un autre candidat, Johannes Kaiser, qui a aussi durci le ton tout au long de la campagne et qui a fait un bon score. Et on a eu en plus un candidat qui a de nouveau créé la surprise, Franco Parisi, qui est assez inclassable, qui lui-même ne se définit comme ni fasciste ni communiste et qui est arrivé en troisième position.
Quand un candidat politique dégagiste, comme on peut le nommer, il a un électorat peu politisé, dit-on, son parti, il l'a appelé le Partido de la Gente, le parti des gens. Donc aujourd'hui, celle qui représentait la droite de l'ancien président Sébastien Piñera, celui contre qui s'était soulevé tout un peuple, enfin tout un peuple bien sûr, il faut mettre des nuances, ce n'est pas tous les Chiliens, mais beaucoup quand même, en 2019 qui s'était soulevé contre lui, ce parti UDI de l'ex-président Sébastien Piñera, aujourd'hui fait presque figure de centre droit ou de centre dans ce nouveau paysage de la droite, Mathilde Allain.
Oui, tout à fait. Et la candidature de Evelyne Matthei est arrivée donc en cinquième position, ce qui est tout de même une défaite pour cette nouvelle droite qui s'était construite comme nouvelle droite à l'arrivée au pouvoir de Sébastien Piñera en 2010. Une droite qui se voulait justement plus à distance de l'héritage de la dictature. Sébastien Piñera avait d'ailleurs, s'était prononcé d'ailleurs contre le maintien de Pinochet au pouvoir. Et on avait vu plutôt un discours très axé sur les questions économiques, délaissant un petit peu les idéologies plus conservatrices, notamment sur les questions de mœurs. Aujourd'hui, cette droite, elle est davantage marginalisée, mais elle s'est tout de suite ralliée à José Antonio Kast, puisque Evelyne Matthei s'est rendue au QG de campagne de José Antonio Kast dès le soir de la victoire. Il a bien sûr aussi été rallié par Johannes Kaiser, donc à l'extrême droite du Parti National libertarien, qui d'ailleurs avait déjà fait partie du parti de José Antonio Kast et qui s'est très très vite rallié à son allié Kast.
Johannes Kaiser du Parti National libertarien qui est aujourd'hui favorable à un port d'armes totalement libre, à la peine de mort. Il est opposé à la légalisation de l'avortement. Il ressemble sur certains points au parti Libertad Avanza de Javier Milei, même si peut-être que Libertad Avanza est plus proche de l'anarcho-capitalisme, et le Parti National libertaire de Johannes Kaiser au Chili, lui, est plus proche des positions d'un Hayek qui prône un État réduit, le renforcement du secteur des affaires. Bon, c'est en tout cas une droite très éclatée au Chili aujourd'hui, mais qui se rassemble derrière son candidat pour le deuxième tour. Il se trouve, Franck Godichaud, que cette année au Chili, les règles du jeu électoral avaient changé. Le vote était obligatoire. C'est une règle que le gouvernement de gauche de Gabriel Boric avait lui-même modifiée il y a 2 ans pour donner plus d'assises, plus de légitimité populaire au processus de réforme du régime chilien dans le cadre de la Convention constitutionnelle. Est-ce qu'on a des analyses de vote suffisamment fines aujourd'hui pour savoir ce qu'ont voté les nouveaux électeurs et électrices, plus de 6 millions d'électeurs supplémentaires par rapport à 2021, et qui se tenaient jusqu'à présent plutôt à l'écart du vote.
En tout cas, c'est certain que oui, cette nouvelle manière de voter, ce vote obligatoire avec inscription automatique, a eu des effets sur l'élection. Elle a impacté l'élection, elle a incorporé donc ces millions de personnes qui sont parfois qualifiés d'électeurs, électrices réfractaires, plutôt à distance des partis traditionnels, moins politisés et souvent aussi un peu avec une certaine rage accumulée qu'on a vu s'exprimer au cours des dernières années au Chili. Et il semble que ces votants, votantes, aient favorisé justement l'émergence de Parisi, cet outsider, parfois qu'on qualifie de populiste.
Arrivé en troisième, 20% des votes.
Qui a fait quand même un vote assez important et qui a confirmé en plus avec les élections parlementaires. Donc il devient un parti pivot au Parlement. Et par ailleurs, oui, aussi, une partie de ces votants votantes ont sûrement voté Kaiser. C'est un vote protestataire, dit antipolitique d'une certaine manière, qui vient alimenter les discours de l'extrême droite ou des forces populistes type Parisi.
Franco Parisi qui n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour, mais Jeannette Rara, donc la candidate de la gauche, semble vouloir espérer, attirer à elle et ses électeurs, puisqu'elle a tenu à saluer le travail accompli par Franco Parisi, qui est remarquable, a-t-elle dit, mérite notre respect et nos applaudissements. Elle pense pouvoir attirer pour le second tour ces électeurs-là.
En tout cas, c'est ce que Boric avait réussi en 2021, donc le président progressiste sortant. D'après les calculs, il avait réussi à capter presque deux tiers du vote parisi. C'est ce qu'essaie de refaire Jeannette Rara, mais en fait, on est dans un contexte complètement différent. Tout le champ politique a été rebattu, mais surtout les thématiques de campagne ne sont plus les mêmes. Et donc le corps social est travaillé par d'autres sujets de crispation identitaire. Et donc là, ça va être beaucoup plus difficile pour Jeannette Rara de capitaliser dans un contexte, vous l'avez dit, où presque 70% en fait du vote s'exprimait à droite ou à l'extrême droite.
Ne laissez pas la peur endurcir vos cœurs. La peur n'en vaut pas la peine. Nous devons la combattre en offrant plus de sécurité aux familles et non en inventant des solutions imaginaires dans l'esprit de personnes qui proposent des idées toujours plus radicales.
Jeannette Rara, au lendemain du premier tour, on l'entendait sur France 24 ici ce soir-là, elle était par ailleurs la ministre du Travail du président Gabriel Boric. Est-ce qu'elle a réussi à conserver au moins l'électorat qui était celui de Gabriel Boric aux précédentes élections en 2021, Franck Godichaud?
Alors, pas tout à fait. C'est là où le pari est aussi perdu pour ce premier tour pour la gauche. Le niveau d'approbation, plus ou moins, de Gabriel Boric reste à 30%. Donc, il y avait l'espoir au moins de partir sur cette base-là pour ensuite construire le deuxième tour. Et donc, Jeannette Rara est en dessous, et elle est en dessous face vraiment à une droite qui est en pleine expansion. Donc, autour de sa figure, il y a quand même l'idée de capitaliser les grandes réformes du gouvernement sortant, qui était la réforme autour du temps de travail, des retraites, mais qui sont un peu les seules réformes emblématiques, puisque là aussi, le problème de Jeannette Rara, en fait, elle a comme sac à dos, on peut dire ça comme ça, le bilan d'un gouvernement assez mitigé. Et donc, elle devait à la fois dire « je vais aller beaucoup plus loin » et en même temps reconnaître qu'elle est issue de ce gouvernement. Donc cette position était difficile dans le cadre d'un bilan pas excellent du gouvernement sortant.
Il y a par exemple eu récemment plusieurs entretiens qui ont paru dans la presse sur des sites plutôt classés à l'extrême droite d'ingénieurs chiliens par exemple qui s'inventent un petit peu une vie d'analyste politique et qui expliquent que le gouvernement Gabriel Boric par exemple a totalement raté son pari sur la santé, le fait qu'il voulait assurer une santé pour tous dans le domaine de la santé. On parle de 45 000 patients qui attendraient une intervention chirurgicale urgente, entre 35 et 40 000 personnes qui mourraient chaque année faute de soins médicaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? Et depuis quand la droite en fait un thème de campagne, la question de la santé pour tous? Franck Godichaud, puis Mathilde Allain.
Alors, il y a eu là aussi, en fait, c'était des avancées, mais de petits pas, on peut dire ça comme ça. Le gouvernement était minoritaire au Parlement. Il n'a pas réussi à mettre en place ce qui était la mère de toutes les réformes, c'est-à-dire la grande réforme fiscale qu'il avait promise. Et donc, sur cette base, en fait, il a été très rapidement désamorcé. C'était un gouvernement de réformes, peu réformateurs finalement. Et donc sur la santé, il y a eu des avancées sur la gratuité pour les plus pauvres, mais effectivement, le système de santé lui-même est complètement débordé, avec des queues gigantesques. Et on retrouve un peu cette même logique dans tous les domaines. Donc c'est là où le gouvernement a un bilan quand même qui n'est pas excellent, même s'il a pu avancer sur certaines thématiques.
Et Jeannette Rara le sait, d'ailleurs, la candidate de la gauche, qui dit aujourd'hui qu'elle trouve certaines propositions de Franco Parisi très intéressantes, notamment dans le domaine de la santé, de la réforme du système de santé, sa proposition de rembourser la TVA sur l'achat de médicaments, par exemple. Donc elle reprend à son compte certaines de ses idées, aussi dans l'idée de séduire ses électeurs, comme vous le disiez. Jeannette Rara, qui est présentée par l'extrême droite comme une marxiste, marxiste-léniniste pur et dur, un loup déguisé en agneau. Cette rhétorique-là, Mathilde Allain, depuis quand la droite au Chili l'utilise? Vous, avant de venir dans ce studio, vous avez regardé la une des titres chiliens, de la presse chilienne ce matin. Et il y a quelque chose qui semble assez nouveau dans le discours de la droite, c'est de parler des grandes manifestations de 2019 comme d'une tentative de coup d'État.
Alors l'anticommunisme est vraiment au cœur de l'ADN des droites chiliennes. Donc en fait, ça c'est pas nouveau, et le fait que Janet Jara soit communiste joue bien sûr en sa défaveur. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des thèmes de campagne qui ont été positionnés dès le début, hein, à la suite notamment du premier processus constituant qui a été rejeté par les Chiliens et Chiliennes, à savoir la sécurité et l'immigration. Et en fait, sur ces deux thèmes-là, Janet Jara et la gauche en général ont du mal à se positionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la gauche chilienne propose des solutions de prévention, d'accompagnement, de présence dans les quartiers populaires. En fait, des thématiques autour notamment de la formation des policiers ou bien des corps civils de l'État pour prévenir le crime organisé et le juguler. Elle propose aussi, par exemple, de faire tomber le secret bancaire pour suivre l'argent, au lieu de suivre uniquement les armes et les faits violents, suivre aussi l'argent, puisqu'on sait que le Chili intéresse énormément le crime organisé, notamment parce que le blanchiment d'argent y est facilité. Mais ça, dans un contexte politique très, très fortement polarisé, mené par des candidats très à droite et aussi soutenu par des médias, il faut le dire au Chili, qui sont extrêmement concentrés. On a trois grandes familles politiques qui tiennent les médias au Chili. Pour la presse écrite, c'est 80% des journaux qui sont tenus uniquement par deux groupes qui représentent deux familles de l'élite politique chilienne qui est à droite. Et bien, en fait, dans ce contexte, il est difficile de positionner des réponses un peu plus modéré ou bien vers une compréhension des processus sociaux et économiques à la base du crime organisé.
Ça, vous l'avez constaté en lisant la presse chilienne. Aujourd'hui, il y a une forme de discours un peu univoque sur à la fois les explications et les solutions présentées, notamment sur l'immigration et le crime organisé, qu'on peut traiter comme deux thèmes différents, mais qui sont tout le temps traités sous un même angle.
Oui, alors le nexus sécurité-immigration, il n'est pas propre au Chili, bien sûr, mais depuis 10 ans, on a une hausse de la migration, notamment vénézuélienne, au Chili, avec, en fait, dans les dernières vagues d'arrivée, des Vénézuéliens qui sont de plus en plus pauvres, puisqu'on a eu d'abord des Vénézuéliens issus plutôt d'une classe moyenne qui sont arrivés au Chili avec des diplômes, notamment dans des dispositifs prévus par le Chili, qui a d'abord été très accueillant dans un premier temps, avant de refermer assez rapidement les frontières. Donc on a cette arrivée de Vénézuéliens qui sont d'abord situés à Santiago et aussi dans les villes du Nord, qui sont des villes très fortement paupérisées, où on a des Vénézuéliens qui finalement se retrouvent dans des quartiers très populaires, à côté de Chiliens, dans des quartiers très populaires. Et dans ce contexte-là, on a une hausse très forte du racisme, et dans ce contexte, il est plutôt facile pour des propositions de droite d'émerger, notamment celle de refouler les migrants, les mettre sur des bateaux, construire des prisons de haute sécurité, en faisant vraiment une assimilation claire entre crime organisé et présence des Vénézuéliens, alors même que les Vénézuéliens sont les premières victimes du crime organisé actuellement au Chili.
Je me trouve actuellement à la frontière avec le Pérou, près d'Arica. Et je suis venu ici pour dire aux migrants illégaux qu'il leur reste désormais 111 jours tout pile pour quitter volontairement le Chili. S'ils acceptent de partir de leur propre gré, ils pourront le faire avec toutes leurs affaires et tous leurs biens. S'ils refusent, nous appliquerons la loi. Le Chili appliquera sa loi. Si vous ne partez pas de vous-même, le Chili va vous placer en détention, sous bonne garde, et va vous expulser sans que vous ne puissiez rien emporter. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à regagner les pays d'où vous venez, et de là à retaper à notre porte avec les documents à jour.
José Antonio Kast, candidat d'extrême droite favori pour le second tour, qui propose 2000 vols pour envoyer chez eux les sans-papiers qu'on estime à 330 000 sur le territoire chilien. Est-ce qu'à cet égard, d'ailleurs, Franck Godichaud, la cartographie du vote est intéressante? Est-ce que ce discours-là a séduit en particulier les électeurs qui sont près des frontières?
Alors en fait, on a vraiment un Chili qui est fracturé, un pays fracturé, polarisé, mais surtout vers l'extrême droite. Si on regarde le territoire actuelle et comment ont voté les Chiliens et les Chiliennes. En fait, tout le Grand Nord, c'est Parisi qui arrivait en tête, mais il arrivait en tête sur la base d'un discours lui aussi xénophobe, anti-migrant, fermeture de la frontière, sécuritaire. Donc de ce point de vue, il a capitalisé en fait la crise sociale, Mathilde Alain l'a bien dit, c'est-à-dire l'extrême précarité de ce Nord chilien, où les conditions économiques sont souvent désastreuses. Et donc le Nord est aux mains de Parisi d'une certaine manière, le centre...
Lui, il veut miner la frontière et renvoyer les migrants illégaux à pied, pour donner plus de précision sur son programme. Mais vous alliez parler du centre, Franck Godijot, où là sont concentrées plus les grandes villes.
Voilà, les grandes villes, on a la capitale, Santiago, on a Valparaíso, et là encore la gauche arrive à faire un assez bon vote, arrive à capitaliser politiquement. Et tout la grande partie du sud, c'est aux mains de castes, le sud rural, le sud des grands propriétaires, des grandes entreprises forestières. Donc une fragmentation quand même importante du pays au plan territorial, mais c'est aussi une fracture qui est sociale. Hein. Et en fait, le discours sécuritaire, le discours anti-migrant, xénophobe, il prospère dans un Chili où la question de l'accès aux services sociaux, la présence de l'État est défaillante dans les quartiers populaires. C'est vraiment ça l'origine. Le travail informel a explosé depuis l'époque du Covid. Donc ça alimente toute cette insécurité sociale et qui va être instrumentalisée et basculée sur un discours plutôt de sécurité en termes de délinquance, de migration. Et ça, évidemment, c'est bon pour les extrêmes droites.
Pour en parler froidement, Franck Godijot, comment ces deux courbes de l'insécurité et de l'immigration ont évolué au Chili et quelle analyse on peut en faire ?
Alors en termes de migration, oui, il y a eu effectivement le Chili historiquement était un pays assez fermé avec peu de migrants et au cours des 5 dernières années, il y a eu vraiment une augmentation assez importante. Aujourd'hui, environ 10% de la population chilienne est issue de l'étranger, donc c'est pas non plus gigantesque, mais à l'échelle chilienne, il y a une transformation du paysage social chilien. Il y a que 300 000 migrants illégaux, donc ce n'est pas non plus des chiffres astronomiques, mais il y a un déphasage en fait entre les statistiques et les perceptions, et ça on le voit surtout dans la question du crime organisé et de la délinquance. Le Chili reste à l'échelle latino-américaine un pays assez sûr. C'est environ 6 homicides par an pour 100 000 habitants. Donc c'est très bas si on compare au Venezuela, à la Colombie, au Pérou. Mais par contre, en termes de perception d'insécurité, c'est absolument, et ça c'est confirmé par toutes les enquêtes, un des pays du monde qui a la plus forte perception d'insécurité au quotidien. Donc ce gap-là, évidemment, politiquement, il a des effets assez dévastateurs qu'on est en train de voir sous nos yeux.
Avec aussi des faits divers qui ont échaudé l'opinion publique au Chili, le meurtre d'un chauffeur routier, par exemple, en 2022, Byron Castillo, dans le nord du Chili, tué, si j'ai bien compris, par un groupe d'immigrants illégaux qui avait donné lieu à des grèves dans la région. Le candidat de l'extrême droite, José Antonio Kast, met en scène beaucoup une forme de proximité avec l'ancienne épouse de ce chauffeur routier, ce qui fait qu'aujourd'hui la gauche de Jeannette Jara se sent un peu obligée d'aller sur ce terrain et ces thématiques de la droite.
Il est évident que l'immigration nourrit les problèmes de sécurité. Il n'y a pas que des migrants qui viennent s'installer chez nous avec les meilleures intentions. Il n'y a malheureusement pas seulement des gens qui veulent apporter leur contribution et aider leur famille. Ces dernières années, nous avons aussi assisté à l'arrivée de gangs, avec des conséquences dramatiques. Je pense que la question migratoire doit être appréhendée dans toute sa complexité, car le Chili compte près d'un million d'immigrés, dont beaucoup sont en situation irrégulière. Pas par choix, mais parce qu'il y a eu des manquements dans les processus de régularisation.
Jeannette Jara qui évoque la structuration au Chili du gang vénézuélien traîne des Aragua que vous avez mentionné, Mathilde Alain, tout à l'heure. Depuis quand, d'ailleurs, ce gang est-il sur place ? De quoi s'est-il nourri ? De quelles éventuelles failles a-t-il profité ?
Alors, le Tren de Aragua, en fait, c'est une bande criminelle dont on trouve la genèse au sein des prisons vénézuéliennes et qui s'est ensuite étendue à plusieurs pays, notamment en Colombie, on la retrouve en Équateur, mais aussi au Pérou. Et en fait, c'est une bande criminelle qui est assez fluide, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un cartel avec des têtes bien identifiées, avec un leadership et une culture narco comme on peut le voir dans d'autres pays comme au Mexique. Au contraire, on est en fait sur une espèce d'entreprise criminelle qui s'installe là où c'est le plus intéressant. J'ai déjà dit que le Chili était intéressant parce que pour le Tren de Aragua, parce qu'il y avait une facilité de blanchiment d'argent, mais aussi pour les nombreux ports qu'il existe au Chili, puisqu'il y a toute la côte pacifique qui est peu contrôlée. Donc pour l'envoi de produits, notamment liés au trafic de drogue, c'est assez utile, mais aussi parce que les forces armées chiliennes, la police chilienne ne sont pas du tout préparées à un phénomène de crime organisé. Ce ne sont pas du tout des forces armées et policières qui sont préparées à ce type de configuration. Et on a déjà pu voir qu'il y a eu déjà des faits de corruption assez importants, notamment au nord, où la bande organisée a réussi à pénétrer la police. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait cette bande organisée ? Alors, le narcotrafic, mais pas seulement, en fait. C'est aussi beaucoup le trafic d'êtres humains. Et les migrants, en fait, sont les premières victimes. À la fois parce que la frontière nord est très perméable, elle est très grande, très difficile à contrôler. Donc, ils vont se faire passeurs un jour, et puis aussi exploiter sexuellement les femmes qui tentent de traverser la frontière. Il y a aussi beaucoup de réseaux de prostitution. Et donc, pour le contrôle de certains espaces, on va avoir une recrudescence de la violence. Et c'est ça qui aussi impacte beaucoup les Chiliens. Parce que ce qu'on n'avait jamais vu au Chili, c'était des enlèvements, des extorsions, des séquestrations de personnes et des morts violentes. Alors en fait, ça n'affecte pas tous les Chiliens et les Chiliennes dans leur quotidien. Mais ça impacte énormément les subjectivités, les mentalités. Et bien sûr, c'est repris dans tous les médias. Et les faits divers, en fait, deviennent des informations qui, bien sûr, génèrent cette peur. Franck Gaudichaud l'a dit, le Chili est l'un des pays où on se sent le moins sûr, selon les derniers sondages.
Avec donc cette grande facilité qu'a la droite aujourd'hui, l'extrême droite au Chili, pour convaincre les électeurs du lien entre immigration et crime organisé, et notamment parce que ce gang Tren de Aragua est vénézuélien et que l'immigration vénézuélienne a été importante ces dernières années, mais elle a été beaucoup encouragée aussi à l'époque de Sébastien Piñera, président de droite, qui en faisait un peu un étendard en disant vous, vénézuéliens qui vivez dans un pays communiste dirigé par Nicolas Maduro, venez chez nous au Chili, vous y vivrez mieux. Or, ces Vénézuéliens, Franck Gaudichaud, pour ceux qui sont là depuis plus de 5 ans, ils ont le droit de s'inscrire sur les listes électorales et de voter. C'est d'ailleurs aujourd'hui une part assez importante de l'électorat, en tout cas dans les 6%, je crois, toute nationalité ou origine confondue. Est-ce qu'on sait pour qui ils ont voté, ces migrants vénézuéliens ?
Alors on a des idées, hein. C'est un vote plutôt conservateur. C'est une migration qui est issue de l'effondrement du Venezuela et notamment donc avec un rejet de ce qu'a été l'expérience bolivarienne, donc l'idée du socialisme bolivarien. Donc une grande partie d'entre eux ont vécu ce drame et arrivent avec un rejet très fort de la gauche. Mathilde Alain l'a dit, une partie d'entre eux initialement étaient plutôt issus des secteurs plus aisés, et là c'est plutôt une migration précaire, économique. Mais globalement, ils ont plutôt voté à droite, voire à l'extrême droite, semble-t-il. Et donc c'est aussi une base électorale pour ces secteurs-là, paradoxalement, puisque ces partis en même temps de l'extrême droite alimentent un discours globalement xénophobe. Donc, mais il y a une relation électorale avec ce secteur des Vénézuéliens qui sont désormais des votants, peut-être autour de 800 000 d'entre eux.
Parce que les Vénézuéliens qui ont fui le régime de Nicolas Maduro font un parallèle, trouvent que la gauche chilienne ressemble à la gauche au Venezuela, Franck Gaudichaud.
Ben en tout cas, le problème, c'est que Jeannette Jara, qui est issue du Parti communiste, est toujours ramenée à son identité communiste. Dans les débats, on essaie de la coincer, justement, autour du Venezuela. Le Venezuela, c'est un peu le fantôme hein, qui plane sur toutes les élections latino-américaines depuis 15 ans maintenant. Dès que la gauche se présente, on essaie de la ramener à en dire « Ah, mais vous allez transformer le pays en Venezuela ». Donc, Jeannette Jara a dû prendre ses distances par rapport à son propre parti, d'ailleurs aussi, et dire que, évidemment, son modèle n'était pas celui-ci. Elle était très claire là-dessus. Et le gouvernement sortant aussi, Gabriel Boric, c'est un des leaders régionaux qui a condamné à plusieurs reprises la situation autoritaire au Venezuela. Mais l'anticommunisme étant vraiment structurant des identités de droite chilienne. Et désormais, c'est le bolivarisme ou le Venezuela qui sert aussi un peu de chiffon rouge pour contrer les gauches.
D'où ces critiques qui sont souvent formulées par la droite à l'égard de Jeanne Herrera, qu'on présente comme une marxiste-léniniste pure et dure. Encore une fois, ce sont des mots qu'on retrouve régulièrement dans les discours de droite. Il faut préciser que le Parti communiste auquel elle appartient n'a pas été partenaire de la transition démocratique négociée entre des forces modérées après la chute de la dictature d'Augusto Pinochet. Les partis de droite en jouent aussi aujourd'hui et l'obligent à dire régulièrement qu'elle n'est pas la candidate du Parti communiste, mais de l'ensemble de la gauche, et qu'en cas de victoire, ce n'est pas le Parti communiste qui s'occuperait de politique étrangère. Donc en effet, on sent qu'elle a ce poids-là et toute cette pression-là derrière elle. Gabriel Boric lui-même, sur les questions de sécurité, Mathilde Allain, s'était assez vite recentré sur ces questions-là, avait aussi accordé de l'importance à ces questions pendant son mandat, qui n'est pas totalement terminé encore, mais président de gauche qui a été ramené à cette réalité-là.
Tout à fait, il a été obligé de se positionner sur ces enjeux importants, à en croire les sondages, pour une partie des Chiliens et des Chiliennes, avec notamment un tournant sécuritaire qui a surpris une partie de sa base. Il a créé notamment un ministère de sécurité publique avec deux axes, sécurité publique et prévention du crime. Et puis, il a eu aussi une attitude très militariste vis-à-vis notamment du peuple Mapuche, donc situé dans le sud du Chili, en adoptant finalement le même type de politique que ses prédécesseurs, alors même qu'il avait fait campagne sur une autre relation avec le peuple Mapuche, une autre façon d'agir et d'organiser les relations entre État et l'Araucanie, donc cette zone du sud du Chili. Donc il a été forcé, bien sûr, de se positionner. Mais on voit bien que la gauche n'est pas à l'aise sur ces questions-là, notamment quand l'agenda est posé par la droite.
Ça fait 3 ans maintenant qu'en Araucanie, on vit dans un état d'exception pour justifier cette répression des mouvements de contestation Mapuche, avec qui il avait en effet promis d'établir une nouvelle relation lors de son élection. On est vraiment, Franck Godichaud, dans une sorte de retour de bâton de ce qu'on avait appelé l'estadillo social, ces grandes manifestations pour plus de justice sociale qui avaient été relayées dans le monde entier en 2019, qui avaient porté Gabriel Boric au pouvoir, lui-même issu de grands mouvements sociaux de 2011. Aujourd'hui, vous l'analysez vraiment comme un retour de bâton de cette séquence-là, où ça va chercher plus loin.
En tout cas, oui, il y a un retour de bâton très clair. Le grand soulèvement d'octobre reste au cœur de la campagne, d'ailleurs, électorale. La droite parle de l'octobrismo, donc c'est en référence à octobre et à ce soulèvement, pour dire qu'eux, ils vont proposer un retour à l'ordre, remettre la famille au centre, l'espace public rangé, etc. Mais ce qui est paradoxal, ce que vient de dire Mathilde Allain, ça me semble vraiment important, c'est que ce gouvernement qui commence dans le sillage d'octobre sans être directement lui-même issu d'octobre, puisque Gabriel Boric avait plutôt proposé un pacte social, disons, pour le retour à la paix sociale et une nouvelle constitution. Mais il est quand même dans ce sillage-là. Il a eu la grande défaite de l'Assemblée constituante de 2022. Et progressivement, on a vu la pratique du gouvernement vraiment aller de plus en plus vers le centre, vous voyez ça comme ça, y compris avec il y a des organismes des droits humains qui disent que le gouvernement Boric a pratiqué une forme de surenchère sécuritaire. Donc c'est assez paradoxal. Dans le sud du pays, notamment, l'état d'exception sur une telle durée, c'est de la part d'un gouvernement qui voulait rompre avec ses pratiques, c'est quand même la démonstration d'un basculement et d'un gouvernement, par exemple aussi, qui a proposé que les forces armées deviennent des forces de sécurité intérieure, qu'elles puissent intervenir dans le contexte sécuritaire intérieur. Ça aussi, ça a été dénoncé par une partie de la base de Gabriel Boric. Donc voilà, une ambiguïté, une contradiction. Et dans cette contradiction, eh bien, c'est ceux qui ont le discours le plus dur, finalement, qui arrivent à capitaliser. Aujourd'hui, c'est Caste et Kaiser, l'extrême droite.
Une surenchère sécuritaire de la part de la gauche qui permet, en effet, à des Caste ou Kaiser, à l'extrême droite, de relativiser les atrocités commises par le régime d'Augusto Pinochet.
À Cuba, on peut parler de tyrannie. Au Venezuela aussi, on peut parler de tyrannie. Au Chili, c'était autre chose. C'était une dictature.
C'est positif ou négatif, la dictature ?
Je pense qu'en l'occurrence, la dictature nous a permis de ne pas finir comme le Venezuela ou comme Cuba.
Oui, autrement dit, la dictature était une bonne chose ?
Oui, il est évident qu'elle a donné de meilleurs résultats que les régimes vénézuéliens et cubains, non ?
Mais si je vous rappelle les violations des droits humains et toutes les autres dérives, vous maintenez que la dictature était une bonne chose ?
Si vous me demandez de choisir entre la peste et le choléra, je vous répondrai toujours la même chose. Je ne veux pas vivre comme à Cuba, je ne veux pas vivre comme au Venezuela, et je n'ai aucune envie de vivre sous un gouvernement dirigé par le Parti socialiste et sa meute de fanatiques meurtriers. L'alternative au Chili, ce n'était pas la social-démocratie ou la dictature. L'alternative, c'était d'un côté des psychopathes de gauche qui importaient des armes, qui menaient la guérilla et qui assassinaient leurs opposants politiques, et de l'autre, les forces armées qui voulaient faire respecter la loi.
Johannes Kaiser, interrogé sur CNN Chili en août dernier, ces discours de l'extrême droite au Chili pendant cette campagne, Mathilde Allain, est-ce qu'ils sont on ne peut plus classiques de la part de ces formations ou vraiment une nouvelle droite est advenue ? Après tout, la candidate de l'UDI, le parti de l'ancien président Sébastien Piñera, censée représenter une droite classique, est elle-même la fille d'un ancien général de la junte. Piñera avait aussi des liens directs avec la dictature, même si vous nous rappeliez tout à l'heure qu'il s'en était dégagé de ces liens-là. Mais voilà, est-ce qu'on peut parler de rupture ou on est dans une continuité ?
En fait, il y a toujours deux types de droites qui ont cohabité au Chili. Alors, ce qu'on appelait nouvelle droite, c'était justement la droite portée par Sébastien Piñera, qui avait su faire en fait de l'UDI, donc ce parti héritier du pinochetisme, un parti plus respectable, capable donc d'être élu et d'être un petit peu au centre de la droite traditionnelle chilienne. On avait vu que c'était une droite plus pragmatique, idéologique, qui avait avant tout comme cap de maintenir une haute croissance pour le Chili et aussi de maintenir cette idée d'une économie florissante avec peu de redistribution en termes sociaux.
On rappelle que la dictature de Pinochet, ça correspond vraiment à une libéralisation du Chili. On est dans cette dictature-là de droite soutenue à l'époque par les États-Unis.
Tout à fait. En fait, il y a une continuité totale de la droite pinochetiste à la droite, on va dire, en démocratie sur le modèle économique. Mais il y avait une rupture quant au rapport au passé. Et bien, en fait, cette rupture, elle s'ébranle petit à petit parce qu'en fait, c'est une autre partie de la droite qui a d'ailleurs créé donc des partis à l'extrême droite. C'est le cas de José Antonio Kast, hein, qui avait fait partie de l'UDI et qui en 2017 s'en est distancé pour ensuite créer son parti, le Parti Républicain, en 2019. C'est une droite plus idéologique, plus conservatrice sur les questions de mœurs, donc contre l'avortement notamment, contre le mariage entre personnes du même sexe. José Antonio Kast, par exemple, un personnage qui a 9 enfants, donc qui est très proche aussi d'une certaine conception de la famille et qui entretient un rapport totalement décomplexé au passé, ne revendiquant pas seulement l'héritage économique de Pinochet, mais aussi l'héritage en termes d'ordre. Et ça résonne beaucoup dans la société chilienne, parce qu'on a pu voir que dans les sondages publiés récemment et les enquêtes d'opinion, il y a un fort attrait pour l'autoritarisme. Quand on pose la question aux Chiliens en termes de rapport à la dictature, ce qu'on appelle nostalgie de la dictature, plus de 50% des répondants qui ont voté Kast sont favorables ou du moins reconnaissent un certain héritage en termes d'ordre. Et donc ça veut dire, en termes d'ordre, en dictature chilienne, c'est la violation massive des droits humains.
Et plutôt les plus âgés, ce sont plutôt les électeurs les plus âgés qui votent pour l'extrême droite, des déçus de la transition démocratique, ou ce sont les plus jeunes ?
Eh bien non, ce sont les plus jeunes. En fait, Kast fait le plein de voix chez les jeunes. Alors, entre par exemple les jeunes entre 18 et 24 ans, 1 sur 3 a voté pour Kast, alors que c'est seulement 20% de cette tranche d'âge pour Jeannette Jara. En fait, Jeannette Jara, elle fait plus de scores vers les personnes qui ont plus de 44 ans. Donc, il y a vraiment une rupture générationnelle importante. Et il faut aussi prendre en compte la donnée genre, qui est très importante, notamment pour le vote Parisi et le vote Kaiser.
Beaucoup d'hommes.
Beaucoup d'hommes. Donc, on a vraiment aussi un retour du masculinisme très important, avec un retour à la famille traditionnelle, contre aussi les mouvements féministes des dernières années.
Franck Godichaud, l'élection présidentielle se tient en même temps que les législatives. Or, le score des liste de l'extrême droite a, pour les législatives, également doublé en 4 ans, passant de 22 à 42 sièges. 42 sièges, est-ce que ça suffira à donner les mains libres à José Antonio Kast si, comme tout semble l'indiquer, il est élu le 14 décembre ?
Alors, en tout cas, ils viennent de faire une excellente élection législative et parlementaire en général. Ils deviennent la force centrale du Parlement. Et en alliance avec la droite conservatrice plus traditionnelle, ils ont quasiment, il leur manque 2 sièges, la majorité du Parlement, en sachant que Parisi, donc ce vote de centre populiste, enfin de droite populiste, a 14 sièges, eh bien ils pourront faire des alliances. Et donc dans le cas qui est assez probable où José Antonio Caste gagne la présidentielle le 14 décembre, non seulement il aura l'exécutif, mais en plus il aura les mains libres au Parlement. Le Sénat, lui, est divisé en deux, mais donc la perspective, c'est qu'on ait un gouvernement qui puisse aller très loin dans sa politique telle qu'annoncée. Ce qui est important, c'est que c'est une politique sécuritaire, xénophobe, très conservatrice sur le plan de la société, des mœurs, mais aussi extrêmement néolibérale dans un pays qui est déjà connu pour son néolibéralisme. Caste, il veut, en 18 mois, diminuer la puissance publique de 8 milliards de dollars. Mmh. Donc, il veut vraiment aller très loin, un peu à la Milei. Et donc, le fait qu'il ait fait une bonne élection parlementaire, évidemment, ça va lui donner les mains libres.
Diminuer la place de l'État, sauf celle de la police et de l'armée. On en parle juste après cette chanteuse franco-chilienne, Anna Tijoux.
Mi piel es morena, mis ojos negros, negro y azabache, descendiente de mi abuelo. En mi tez madera que corre por mis venas y el cuero que te suena viene de mi tierra. Vine de tan lejos con solo lo opuesto, crucé tantas aguas, varios desiertos. Llevo en la boca parte de mi cielo, por donde camine, por todo mi duelo. Mi pie es cansado pero lleno de sueño, acá los cortaron acusándome de quitar empleo. No es que por no entro, mi cuerpo entero canta libertad mientras tú matas a mi pueblo. Que limpie lo malo, que se apague el fallo. Que bote todo el odio, que lo limpie todo. Que llueva la vida, que lleve la ira. Que limpie lo malo, que se apague el fallo. Que bote todo el odio, que lo limpie todo. Que llueva la vida, que lleve la ira. Levantaron alambrados, nos encadenaron, crearon cárceles en medio del océano, barcos absurdos, esclavistas humanos, y acá seguimos enjaulados en la hipocresía, gritan democracia, silencian la justicia, quitan su balanza, rompen de su espada, nadie dice nada, yo, la historia no contada, la colonia sigue tu silencio.
Anna Tijoux et sa chanson Oyeme, dans ce titre, elle demande à être écoutée, elle dénonce la violence du pouvoir et résiste contre l'ultralibéralisme instauré sous la dictature de Pinochet, que ses propres parents ont fui. Toutes ces doléances qui étaient celles du grand mouvement social de 2019 et qui prennent aujourd'hui un violent retour de bâton. Le Chili ou la droite est à la reconquête du pouvoir comme de nombreux pays d'Amérique latine. C'est le thème de notre nouvelle série cette semaine. À 15 jours du deuxième tour de la présidentielle chilienne, le candidat d'extrême droite José Antonio Caste fait figure de favori et mise sur un discours ultra sécuritaire, y compris quand il s'agit d'encenser les carabiniers.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Todos los días, los funcionarios de carabineros de Chile.
Chaque jour, les carabineros chiliens arpentent les rues pour défendre notre nation et nous protéger. Les carabineros ne se plaignent jamais. Les carabineros ne faiblissent jamais. Les carabineros ne s'arrêtent jamais. Il est indispensable que nous restaurions le respect envers cette noble institution des carabineros.
C'est l'un de ses thèmes de campagne préférés. José Antonio Caste défend régulièrement l'action des carabineros, les gendarmes chiliens, dans la répression du mouvement social de 2019, y compris des forces qui furent par ailleurs au cœur des politiques répressives du régime d'Augusto Pinochet. Bonjour Daniela Jacob Pinto. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante en anthropologie à l'EHESS. D'abord, qui sont-ils, ces carabiniers? Est-ce que ce sont des policiers ou des militaires?
C'est des policiers, mais qui sont nés d'un corps militaire. Les carabiniers du Chili ont été créés en 1927. Et ils sont produits d'une fusion entre la police fiscale du Chili et les corps des carabiniers de l'armée. Alors, ils ont été pensés toujours comme des citoyens armés, mais aussi avec une forte vocation sociale. Il a toujours eu une motivation d'avoir un code moral fort, qu'il devait être un exemple pour les couches les plus défavorisées de la société, qu'il devait faire de l'action sociale, qu'il devait être là. Dans les années 90, il avait cette idée, les policiers et un ami dans ton chemin. Alors, même s'ils sont nus, formés sur de l'histoire d'erreurs répressives, bien particulièrement en 1973.
Mmh. Lors du putsch du coup d'État militaire.
Oui, quand le général directeur des carabiniers, César Mendoza, il rejoint la junta.
La junte.
Ah, la junte militaire.
Je vous en prie.
Et
il en fait partie d'ailleurs jusqu'en 1985, César Mendoza, de la junte militaire, date à laquelle il doit démissionner parce qu'on comprend son implication dans un triple meurtre de militants communistes, le caso de Golados. Donc c'est le bras armé du pouvoir, les carabiniers, pendant la dictature.
Exactement. Et ils sont participés aux violations des droits de l'homme que la dictature a commises. Et oui, comme vous bien dites, le caso de Golados est très fort.
Il y a eu une commission d'enquête d'ailleurs mise en place par Gabriel Boric qui a confirmé leur rôle à ce moment-là. Daniela Racopinto, après la chute d'Augusto Pinochet, on sait combien les acteurs de la dictature sont restés présents dans le système politico-institutionnel chilien. Est-ce que les carabiniers ont bien été obligés, néanmoins comme les autres, de se conformer aux nouvelles règles démocratiques?
Et oui, bien sûr. Il y a eu une transformation dans l'institution, je dirais, après la dictature. Pendant qu'il avait la dictature, il avait plutôt une doctrine de sécurité intérieure de l'État qui établissait l'existence des ennemis internes à la société. Mais après, il a eu un focus sur la sécurité citoyenne, la seguridad ciudadana. Et alors, les carabiniers, ils sont un peu changé leur focus, donner la préoccupation de la citoyenneté par la délinquance, qui était déjà très présente.
Qu'est-ce que ça veut dire, pardon, donner la préoccupation de la citoyenneté par la délinquance? Vous voulez dire qu'ils encourageaient, par exemple, les gens à s'armer?
Non, c'est pas ça. Pas du tout. C'est juste que la citoyenneté, elle était déjà très inquiète par la délinquance au début des années 90.
Les citoyens chiliens,
oui.
D'accord.
Oui. Alors, ils ont développé un plan qui s'appelait le plan Cuadrante, qui a été mis en place en 98, et où ils se sont préoccupés plutôt de la police communautaire. Alors ça a changé de la doctrine de sécurité intérieure de l'État à une police qui est beaucoup plus présente dans les quartiers et qui divise les quartiers avec leurs propres préoccupations. Et aussi, il y a eu un changement qui est important, que c'est le passage des carabiniers du ministre de la Défense et au ministère de l'Intérieur. Ça qui a donné une connotation beaucoup plus civile à la police et a enlevé un peu de pouvoir.
En 2010, dans les années 2010, les carabiniers ont fait parler d'eux au Chili en commettant aussi des violences vis-à-vis des Mapuche. 2017-2018, l'opération Huracan, la justice chilienne a établi par la suite que les carabiniers avaient truqué des preuves, orienté l'enquête. Quels ont été leurs rôles en 2019, lors du grand mouvement social de 2019?
Oui, c'est très important ce que vous dites parce que je dois mentionner que Carabiniers du Chili, c'est une des institutions historiquement les mieux évaluées dans le pays. Les Chiliens, ils aiment beaucoup et ils ont beaucoup d'estime pour leur police. Et ça fait ses deux sens avant, au sens que c'est une institution où il y avait très peu de corruption en comparaison dans d'autres pays. Mais après 2017, il y a eu les cas Huracan, que vous viens mentionner, mais il y a eu aussi des fonds publics qui ont été déversés dans l'institution, des gens qui ont volé des fonds publics. Il y a aussi l'assassinat de Camilo Catrillanca.
Qui est-ce?
Qui est un militant, pas militant, Mapuche, un jeune Mapuche, qui a été assassiné par la police.
Et donc ça a cassé la confiance des citoyens chiliens dans leur police pas?
Si on voit les sondages, et la confiance avec la police, elle a grandement diminué à ces moments-là. Pour après, augmenter à nouveau.
Alors, lors du grand mouvement de 2019, l'Estallido Social, au moins 30 personnes ont été tuées, 20 000 blessées. Alors, il y a des carabiniers parmi les victimes, mais dans la plupart des cas, ce sont plutôt des carabiniers qui ont tué et blessé des manifestants. Plusieurs procédures judiciaires pour violence sont en cours, d'ailleurs. Et c'est ça que José Antonio Kass promet d'arrêter s'il est élu. C'est de protéger le corps des carabiniers, quoi qu'il en soit.
Oui. Et là, il faut faire une précision, parce que José Antonio Kast, il accuse beaucoup la gauche de rien faire pour la sécurité. Mais, en fait, si on voit les lois qui ont été passées autour de la sécurité, le gouvernement de Gabriel Boric, c'est un gouvernement extrêmement punitiviste dans les lois qui sont passées autour de la sécurité publique. Il y a plus de 100 lois qui ont été passées.
Allez-y.
Et c'est plus des lois que dans quoi que ce soit comme autre gouvernement. Ouais. Un post-dictature.
Oui, c'est ce qu'ont dit les invités tout à l'heure, qu'en effet, ça a été un président de gauche très ultra sécuritaire, pour le dire très vite.
Oui.
Ouais.
Oui, alors, déjà, il avait passé une loi qui s'appelle Nain Retamal, que au Chili on appelle Gatillo Facile, et que c'est une loi qui était très critiquée pour les organisations des droits de l'homme, parce que c'est une loi qui permettrait aux policiers de commettre plus de violences, sans que leur innocence elle est un peu assumée. Il y a une présomption de rationalité dans l'usage des armes de feu.
D'une certaine façon, ils seraient exempt de poursuite dans certains cas, c'est ça, même s'ils ont utilisé leurs armes contre des citoyens, c'est ça?
Oui, et ça, c'était déjà installé. Et oui, et c'est aussi un des risques, c'est une des choses que Cast a promis, et c'est probable qu'il va accroître ça.
Alors, restez avec nous, Daniela Jacob-Pinto. Je vous remercie beaucoup déjà pour toutes ces précisions sur le corps des carabiniers. Franck Godichaud, quel doute, si vous êtes encore avec nous, je pense, quel doute a réussi à insinuer cette stratégie de réhabilitation du militaire, y compris ceux qui ont joué un rôle pendant la dictature. Cette rhétorique-là, auprès de qui elle fonctionne?
Elle fonctionne, malheureusement, je dirais, auprès de beaucoup de gens, parce que en fait, il y a un conflit des mémoires qui reste toujours très présent en Chili dans le cadre d'une transition démocratique où l'impunité est restée très forte. On pourrait rappeler que Pinochet lui-même est resté chef des forces armées jusqu'en 98, pendant 8 ans en démocratie. Et donc cette impunité, elle permet aussi qu'une mémoire de la dictature en positif se maintienne, voire qu'il y ait des discours ouvertement que moi je qualifierais de révisionnistes, voire de négationnistes, qui puissent maintenant être diffusés dans l'espace public et médiatique, comme le fait Cast ou Kaiser. C'est-à-dire revendiquer une dictature de manière décomplexée dans un débat présidentiel. Et donc ça, évidemment, c'est un problème central en termes de perspective de consolidation démocratique, et notamment pour la nouvelle génération qui, elle, n'a pas connu la dictature et voit ça comme assez distant et donc n'a pas intégré, en fait, l'immense violence qu'a signifié cette période.
Une rhétorique qui occulte complètement les crimes et les atteintes aux droits humains de cette époque-là. Mathilde Alain, c'est un échec mémoriel, par ailleurs. Au Chili, personne ne se rappelle ce désir d'ordre et de sécurité, légitime par ailleurs, mais a pu produire dans un passé, pourtant encore très récent, cette période de la dictature.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec Franck Godichaud. Il y a un conflit mémoriel, on a pu le voir lors des dernières commémorations, vous aviez consacré une émission à ce sujet d'ailleurs, qu'en fait on a des récits concurrents qui remettent en cause le coup d'État, qui remettent en cause ensuite les violations des droits humains tout au long de la dictature, mais aussi parce qu'on n'a pas jugé suffisamment au Chili. On a eu des commissions de vérité, mais on a eu de la vérité au détriment de la justice. Peu de personnes ont été jugées au Chili, ce qui laisse aussi un doute persiste dès lors qu'on ne juge pas et qu'on ne va pas au bout du travail de mémoire, notamment pour les plus jeunes générations. Et c'est pas un hasard si ce sont les plus jeunes et les plus éloignés de la politique qui vont voter à l'extrême droite.
Daniela Jacob-Pinto, en quelques mots pour conclure, la gauche aujourd'hui a bien saisi, on le disait tout à l'heure, que la question de la sécurité des Chiliens était primordiale dans leur vote. Comment la gauche, quelles autres solutions que sécuritaires esquisse-t-elle cette gauche-là pour lutter notamment contre le narcotrafic?
Et moi, j'ai l'impression que Janet Jara et la gauche aussi, elle a un focus beaucoup plus social, de pas que voir la force comme la seule solution pour la sécurité. Déjà, il y a des enquêtes qui montrent ça, que la force n'est pas la seule solution pour arrêter la violence.
Et la transparence financière aussi, comme le disait Mathilde Alain tout à l'heure, la levée du secret bancaire pour retracer les flux d'argent sale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniela Jacob-Pinto, doctorante en anthropologie à l'EHESS. Merci Mathilde Alain.
Merci.
Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine et au CREDA. Et merci Franck Godichaud. Merci beaucoup, vous étiez avec nous depuis Toulouse. Découvrir la révolution chilienne 1970-1973. Votre livre a paru il y a 2 ans aux éditions Sociales. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Estelle Caméraire, vous nous emmenez en Asie du Sud-Est où la Thaïlande, l'Indonésie et le Sri Lanka font face à des inondations meurtrières.
Bien que la saison des moussons soit souvent synonyme de fortes précipitations dans la région, les bilans humains sont parmi les pires jamais connus. Près de 1000 morts, selon les derniers chiffres. Une rare tempête tropicale a empiré la situation en Indonésie, raconte le Jakarta Post. Les hélicoptères grondent au-dessus de l'île de Sumatra, au nord de l'Indonésie, où le nombre de morts a dépassé 500 et autant de disparus, selon le Jakarta Post. Le quotidien indonésien explique que des équipes militaires ont été déployés pour venir en aide aux secours. Plus de 80 000 personnes ont été évacuées et des centaines d'autres sont toujours bloquées. Les images des crues sont effroyables. Les quartiers sont ravagés, rasés par les glissements de terrain. Pour le Jakarta Globe, l'image la plus poignante est celle de la carcasse d'un éléphant de Sumatra, découverte par des villageois dans la province d'Aceh. Une espèce en danger d'extinction qui vit normalement au cœur de la forêt, poursuit le quotidien. Les habitants assurent n'avoir jamais vu ce genre d'éléphant dans leur région avant. C'est le bois charrié qui l'a traîné jusqu'au village, précise le Jakarta Globe. On peut aussi lire dans un autre article du journal que d'énormes piles de troncs d'arbres se sont échouées sur la plage et sur des maisons. La population s'inquiète de l'impact de la déforestation et de l'exploitation forestière illégale qui aurait empiré la situation. Interrogé par le quotidien, le vice-régent du district touché reconnaît que les quantités de bois emportées vers les zones résidentielles sont très importantes, sans faire autant le lien avec la déforestation.
Dans toute la région, les défaillances politiques sont pointées du doigt.
La triste litanie des erreurs commises lors des inondations, titre le Bangkok Post. En Thaïlande, au moins 170 personnes sont mortes dans des inondations causées par des ingérences politiques, écrit le quotidien thaïlandais. Alors que les phénomènes météorologiques extrêmes s'intensifient avec le changement climatique, les dirigeants locaux et le gouvernement continuent de mal évaluer les risques, explique le Bangkok Post, notamment en raison du clientélisme bien ancré dans le système politique thaïlandais, selon le professeur associé Pichai Ratnatilakanabuket, interrogé par le journal. Il dénonce les alliances qui permettent la nomination des dirigeants, non pas sur les compétences, mais bien sur la base d'un intérêt mutuel. Le professeur ajoute que la bureaucratie a beau compiler les leçons apprises après les catastrophes, rien n'est mis en place derrière. En particulier dans la ville de Hatay, au sud de la Thaïlande, touchée par de graves inondations en 2010, les autorités n'ont pas su apprendre de leurs erreurs cette fois-ci. Bien sûr, il est impossible d'empêcher des inondations pareilles, mais les impacts climatiques ont été largement sous-estimés, explique le Bangkok Post, très critique de la stratégie gouvernementale.
Et au Sri Lanka, les experts dénoncent même des violations du droit environnemental par le gouvernement.
Ce week-end, le cyclone Ditwa a ravagé l'île. Plus de 750 personnes ont été évacuées vers l'Inde voisine. Le dernier bilan est de 355 morts et autant de disparus, détaille le Daily Mirror sri-lankais. Les habitants n'ont pas été prévenus de l'ampleur de la catastrophe et ont été pris de court, raconte Malika, une résidente de l'île, interviewée par Guardian News. Il a plu sans s'arrêter pendant 3 jours. Nous avons entendu parler des alertes, mais ne nous attendions pas à ce que le niveau de l'eau monte aussi haut. Comme d'habitude, nous avons déplacé nos affaires à un niveau plus élevé, mais cela n'a servi à rien. Tout est sous l'eau. Et de son côté, le président sri-lankais Anuradha Dissanayake a très vite pris la parole pour parler des opérations de secours. Il décrit les inondations comme la pire catastrophe que le pays n'ait jamais connue, pire encore que le tsunami de 2004. Mais pour le scientifique sri-lankais Dasuna Marasinghe, interrogé par The Island Online, le temps n'est pas aux discours de consolation ou aux excuses. Il faut assumer que l'île a été submergée, je cite, non pas par des pluies torrentielles sans précédent, mais par des décennies de négligence politique, de crimes environnementaux et de paralysie institutionnelle, peut-on lire dans le quotidien sri-lankais. Très critique du gouvernement également, il explique que les zones humides ont été détruites au détriment de la sécurité de la population. Elles doivent normalement absorber les eaux des crues. Sans elles, l'eau n'a nulle part où aller. Ce n'est pas seulement le dérèglement climatique, c'est la conséquence directe des décisions humaines, poursuit le scientifique dans les colonnes du quotidien. La destruction de ces zones est autorisée par le gouvernement pour des projets de logements non réglementés, explique The Island Online, ce malgré des réformes et des groupes de travail autour de la protection des zones humides. Pour le quotidien sri-lankais, les politiques n'osent pas appliquer la loi de peur de perdre des voix. Le pays paie le prix de son silence, écrit le journal. Toutes les lois pour prévenir ces catastrophes existent déjà, sur le docteur Amarasinghe. Ces inondations marquent donc un tournant pour le Sri Lanka. Soit le gouvernement apprend de ses erreurs, soit il causera plus de morts encore à cause des écosystèmes qu'il aura lui-même affaiblis, conclut The Island Online.
Merci Estelle Camerer.